Alors si on a choisi avec Regina en fait ce thème des vocations, c'est-à-dire, alors je crois qu'on a mis comme titre appelé et mis en route ou quelque chose comme ça, c'est parce que si vous voulez, ça, c'est quand même un grand thème dans la Bible avec des scènes vraiment souvent très impressionnantes, très spectaculaires, avec en présence d'un Dieu dans toute sa grandeur, toute sa puissance, qui sorte de, j'allais dire de présence de la transcendance infinie de Dieu qui est là, qui vient rencontrer l'homme. Alors ça dit l'incroyable dignité de la personne humaine face à l'infini. Alors c'est quelque chose qui traverse toute la Bible. Alors il y a différents types de vocations. Il y a des vocations qui sont très très personnelles, comme Abraham, comme Ésaïe, comme Jérémie, comme les bon, souvent, voilà, donc Abraham, typiquement, vous l'avez bien vu avec Regina, puis les prophètes, c'est les deux grands types de vocations vraiment personnelles, avec Dieu qui se rend présent, qui appelle la personne par son nom, et puis la personne est, bon, elle est un peu déstabilisée souvent, et puis finalement, bon, il y a une transformation, et alors c'est souvent pour un travail, pour une transformation du monde, que la personne est ainsi appelée. Et puis il y a des vocations plus diffuses, plus... Bonjour Madame Kalanka. Il y a une petite feuille sur la table, là, voilà. Ben, en fait, j'ai commencé une minute d'avance et vous êtes pile, on peut régler notre montre sur le moment de votre venue. Il est pile, poil, 30. Ben, non, pas du tout. Et puis il y a des vocations plus diffuses, c'est par exemple les prêtres. Ben, on va le voir avec Zacharie, ben, il est de, voilà, il y a une, c'est plutôt une vocation de toute une famille, toute une tribu, toute une descendance avec Aaron et puis ses enfants. Donc c'est plus diffus parce que, par exemple, à Aaron, il n'y a pas de rencontre de Dieu avec Aaron qui lui dit ben, « Maintenant mon gars, tu vas être prêtre et puis tes enfants ensuite ». Non, ça passe par Moïse. C'est pareil finalement parfois avec les rois, par exemple David, il n'y a pas tout d'un coup Dieu qui se présente à David qui va dire « Mon gars, tu vas être roi ». Non, ça passe par un prophète qui donne une onction, vous voyez, et puis lui, bon, bah, tiens, finalement, voilà ce qui m'arrive. Donc vous voyez, c'est parfois ça peut être plus diffus comme ça. Alors ensuite, on peut dire qu'il y a la vocation de Israël tout entier, qui est peuple prêtre, peuple prophète, peuple lumière des nations, c'est-à-dire c'est une vocation collective, et je pense que ça c'est historique dans un sens, il y a une vocation à ce peuple improbable, parce qu'il est au carrefour de toutes les invasions, de toutes les rencontres, de tous les brassages, il y a eu là quelque chose de comme une alchimie extraordinaire qui fait qu'il y a eu une conscience incroyable. Et ça donne du coup une vocation pour ce peuple, pour cette langue qu'est l'hébreu, pour ce corpus de textes qu'est la Bible, d'apporter quelque chose au monde. Alors ensuite, dans l'Église chrétienne, ça va être, parce que là on va plutôt aborder dans cette deuxième partie du cycle, voilà, au mois d'août, plutôt le Nouveau Testament, c'est-à-dire après Jésus, là la vocation prend encore plus, je dirais, de sens et de poids, puisque, ne serait-ce que cela, comment on appelle l'ensemble des chrétiens, en fait, on appelle ça Église. Ben, Église, le mot Église en lui-même, si vous voulez, ça veut dire ek, hors de, kaleo, ben, c'est l'appel, hein. Donc l'Ecclésia, c'est l'ensemble des gens qui sont appelés par une vocation finalement, qui sont appelés par une vocation qui les met en route, qui les fait sortir de leur petit train-train. Bonjour, vous avez une petite feuille si vous voulez, si vous l'avez sur la table, là, c'est au coin. Et donc, l'Église, bonjour, une petite feuille. Donc l'Église en elle-même veut dire que la communauté des chrétiens, c'est la communauté des gens qui reçoivent une vocation personnelle pour se mettre en route, pour un service en fait. Et l'ensemble de l'Église a sa vocation propre, je vais dire collectivement, au même sens que la famille d'Aaron ou les Lévites, la tribu de Lévi va avoir une vocation de prêtre. Au même titre qu'Israël a une vocation de lumière, l'Église elle-même, collectivement, les chrétiens ont une vocation dans le monde à apporter. Alors on aurait pu appeler autrement l'ensemble des chrétiens que ecclésia, que Église, que club des gens qui ont reçu cette vocation. On aurait pu l'appeler synagogue, par exemple. C'est-à-dire ensemble de gens qui se rassemblent pour marcher ensemble. On aurait pu l'appeler, je ne sais pas, communauté, on aurait pu l'appeler assemblée, on aurait pu l'appeler de différents noms. En fait, ils l'ont appelé ecclésia. C'est-à-dire vraiment, fondamentalement, il y a cet appel, un appel, une vocation. Alors cette vocation, est-ce que c'est une vocation comme les prêtres et les rois, qui est relativement diffuse, ou si c'est par une rencontre personnelle? À mon avis, c'est les deux, mais je pense qu'il y a fondamentalement dans la foi chrétienne l'idée d'une vocation personnelle, c'est-à-dire, voilà, je t'ai appelé par ton nom, et dans le baptême, bon, c'est un peu symbolique, si vous voulez, hein, bien sûr, mais ça redit cette théologie-là qu'on est appelé par notre nom, c'est pas simplement parce qu'on est fils d'eux, qu'on est tombé dedans, non, c'est vraiment quelque chose de personnel, quelque chose de cette rencontre mystique, de cette rencontre... Alors, mystique, ça peut être comme Zacharie, une rencontre mystique. Il y a des tas de gens qui ont le sentiment d'une expérience de Dieu. C'est pas du tout besoin d'être fou pour, pour vivre ça. Voilà, c'est très courant, en fait, dans tous les peuples de l'humanité. Peut-être 50% des gens, je sais pas. Et puis, ça peut être plus diffus. Ça peut être le sentiment d'une responsabilité, comme peut l'avoir, ben donc, un Zacharie, comme on va le voir dans ce texte. Est-ce que sur la vocation, voilà, petite introduction en 5 minutes, vous avez des remarques, des suggestions, des idées? Non? Par rapport à ce qu'a dit Regina au mois de juillet? Voilà, donc je crois que voilà, on peut se sentir, en tout cas, lire ces textes, les lire pour nous, comme si on était ces personnages qui, vers qui Dieu se rend présent et qui en sont bouleversés. Alors, dans ce début de l'évangile selon Luc, il y a plusieurs récits donc de vocation, et puis on voit un peu la réponse de ces personnes à la vocation, parce que le propre de la vocation, c'est qu'on n'est pas tout à fait obligé, en fait, si vous voulez, normalement. Bon, cela dit, quand un ange se présente, on pourrait se sentir un peu impressionné, se dire, ce coup-là, c'est pas de la rigolade. En fait, Zacharie rigole un peu aussi, effectivement, parce que ça semble comme ça hyper clair et tranché dans le texte. Mais c'est un peu une mise en récit, si vous voulez. Dans la réalité des choses, lui-même se demande, qu'est-ce qui m'arrive? Donc c'est pas si évident, et on les voit un peu hésiter. Pas simplement Zacharie, mais Marie aussi, mais tous les autres aussi, si vous voulez. Hein, aussi bien, alors Abraham, pas tellement... Moïse, oui. Jacob, oui. Il a vraiment une rencontre avec Dieu. Et finalement, il a un moment d'hésitation, exactement comme Zacharie. Il dit, oui, mais enfin bon, si tout ça c'est vrai, il faut me montrer des signes. À ce moment-là, à ce moment-là, oui, je serai fidèle à cette alliance, à cette vocation. Mais pour l'instant, il y a cette suspension un peu de se dire, voyons voir, quoi. Ce qui est aussi de la sagesse, j'allais dire. Ce n'est pas que du manque de foi, c'est aussi de la sagesse. Il faut toujours cette prudence, hein, je pense. Avant de dire, de mettre ça sur le dos de Dieu, il faut toujours un peu de prudence. Alors, dans ce début de l'évangile de Luc, il y a toute cette série de vocations, et ça, je trouve que c'est déjà un programme qui nous est donné. C'est déjà un appel pour nous dire, ça vous concerne, alors voilà... Ça concerne... Alors, j'ai enlevé les 4 premiers versets, c'est un peu un préambule de Luc qui dit, voilà, j'ai écrit ce bouquin, je me suis bien renseigné. Donc, c'est pas tout à fait dans l'Évangile. L'Évangile, il commence, voilà, par le verset 5. Ça commence par « Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie », et point de suspension. Donc, vous voyez, ça dit, ça se passe dans l'histoire. C'est pas un conte... c'est pas les contes de Mille et Une Nuits, c'est pas... le conte de Perrault, il dit ça se passe dans l'histoire, ça s'est incarné, à telle époque, voilà ce qui se passe, il y a des rois, et puis il y a un monsieur, Zacharie, il a ce nom-là, il est de telle famille, il a une femme, il s'appelle comme ça. Donc vous voyez, ça dit ça se passe dans l'histoire, et ça nous dit ça se passe dans votre histoire, c'est fait pour arriver. Là, c'est monsieur Zacharie, pour vous, c'est machin ou machine ou truc. Mais ça s'incarne vraiment. Alors, il va y avoir Zacharie. Ensuite, il y a Marie, hein, donc, qui est la cousine d'Élisabeth. Il va y avoir aussi Élisabeth, ou même le fœtus d'Élisabeth, le Jean-Baptiste embryon, hein, qui va être visité, qui va recevoir quelque chose. Alors après, ce n'est pas dans le texte, mais c'est la suite. Il va y avoir les bergers, qui vont aussi avoir la visite d'un ange, qui va leur donner un peu une mission aussi. Et puis il y a Siméon ensuite. Et ça donne lieu à des réponses. Alors on va voir la réponse de Zacharie. Zacharie va donner comme réponse, au début il va un peu discutailler, après il va devenir muet. Mais après il va y avoir ce qu'on appelle en français courant le Bénédictus, hein, qui est... qu'on a ici, hein, on a dans la page là, j'ai marqué Bénédictus, c'est, on connaît ces titres si vous voulez parce que ça a donné lieu à pas mal de musique aussi, donc on le connaît beaucoup par la musique religieuse, donc c'est une réponse à cette vocation, donc par la louange. Il va y avoir la louange de Marie aussi, hein. Ça s'appelle le Magnificat. Il y a la louange des anges qui s'appelle le Gloria in excelsis. Et puis c'est beaucoup plus court, hein, la louange des anges. Et puis il y a la louange aussi de Siméon qu'on appelle le Nunc Dimittis dans prononciation française, gauloise. Donc c'est des textes qui sont assez connus et qui sont très beaux. Donc la vocation, souvent il y a un temps d'hésitation, de trouble, et puis ensuite ça débouche donc sur une louange, et ça débouche sur des actions en fait. Alors on va le voir ici, les vocations qui nous sont proposées au début, là, dans toute cette série de vocations, c'est des vocations de la louange en fait, surtout le seul boulot qu'a à faire Zacharie, ça va être de nommer Jean-Baptiste, de nommer son fils, le reste pas tellement. Pour Élisabeth et pour Marie, c'est pareil, Marie elle a pour vocation de nommer son fils. Élisabeth, elle rend gloire aussi, et donc elle aide Marie à prendre conscience de sa vocation. Les bergers, c'est aussi leur réponse, c'est aussi chanter la louange. Et puis, c'est ce que fait finalement Zacharie. Donc, peut-être que ça dit quelque chose dans ce début d'évangile sur notre vocation en tant que chrétien. Est-ce que c'est la transformation du monde? Oui. Mais la transformation du monde, ça sera plus Jean-Baptiste et Jésus finalement. Mais au moins, on peut être ce premier niveau, vous voyez, ce premier niveau de personne au début de l'évangile. Ça peut commencer comme ça, finalement, ne serait-ce que comme ça, d'avoir comme rôle l'ouverture à ce qui vient de Dieu comme nouveauté, comme appel personnel, et puis répondre par la louange, c'est-à-dire faire écho par la joie, par la parole, par le témoignage de cette beauté de ce que Dieu projette, même si on n'a pas forcément, nous, la force d'être un Jean-Baptiste ou un Jésus. Alors je pense que nous sommes aussi appelés à être, dans un sens, un Jean-Baptiste ou d'être christique, pas être Jésus, puisqu'il n'y a que Jésus qui est Jésus, il n'y a que Jean-Baptiste qui est Jean-Baptiste, mais avoir quelque chose de christique, c'est-à-dire qui apporte effectivement une transformation du monde, mais... Ça sera plus personnel, ponctuel, dans un moment, pour des personnes qui nous sont confiées, mais globalement, déjà, ce texte, il s'ouvre, vous voyez, donc, avec au moins quatre ou cinq vocations, un chapelet, une rafale, une guirlande, un bouquet, je ne sais pas comment dire, de vocations, qui sont... une vocation à la louange, en fait, à la parole, à la nomination, à donner du sens, voilà. Alors peut-être qu'on peut commencer à lire le début, voilà. Est-ce que quelqu'un peut un peu lire, par exemple, les 10 premiers, le premier paragraphe, les 10 premiers versets? Un peu. Quelqu'un peut nous lire les 10 premiers versets? Ah, merci, oui.
Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux avancés en âge. Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le tour de sa classe. Suivant la commune du sacerdoce, il fut désigné par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens.
Oui, ça va. Donc on voit déjà, si vous voulez, quel personnage est un peu Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, on dit que ce sont des, voilà, avec Élisabeth, c'est des bons petits soldats. Ils font leur boulot de prêtre. Alors donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu une vocation un peu diffuse, un peu technique. Vous voyez, la classe d'Abia, c'est-à-dire qu'il y avait différentes familles, chacun prenait sa semaine à tour de rôle pour le service du temple. Alors voilà, c'est sa semaine, c'est le juste moment, c'est le juste boulot, il fait bien comme il faut, son petit encens, la tenue, la purification, les choses comme ça. Mais finalement, on nous dit que ça ne débouche pas tellement, parce que finalement, bon, ils font leur boulot, pourtant, c'est irréprochable. Bon, bien entendu, c'est une figure de style, parce que personne n'est irréprochable. C'est impossible. Donc, ça veut bien dire que c'est le récit construit là quelque chose qui est de l'ordre du sens, et il nous dit, même si vous étiez irréprochable, un parfait bon petit soldat, de l'obéissance à la loi... À votre vocation, vocation donc générale, relativement vocation de celle de sa famille de prêtre, il y a quand même une stérilité. Une stérilité. Donc ça dit un peu la limite de l'ancienne alliance. Vous voyez, là, l'évangile selon Luc, il reprend, il dit, on est dans la continuité de l'ancienne alliance, de l'alliance avec Moïse, avec le temple, avec les prophètes, avec... Ben en fait, c'est bien, même si on le fait hyper bien de chez hyper bien, ça débouche quand même vers une stérilité. Et donc, ils avancent en âge et puis on se dit, ben finalement, c'est beau tout ça, mais il n'y a pas grand-chose de vivant qui en sort. Alors, quelque part, qu'est-ce qui va remplacer donc cette prêtrise, le temple? Ça va être une spiritualisation de tout ça. C'est-à-dire que les prêtres, avec Jésus, chacun est digne d'entrer en présence de Dieu. Il n'y a plus de question de grands prêtres, de je ne sais pas quoi, de saints des saints. Puisque avec l'évangile, à la fin de l'évangile, à l'autre bout de l'évangile, j'allais dire, il y a le rideau du temple qui se déchire. Jusqu'au ras du sol, donc ça veut dire c'est pas une profanation du temple, mais tout le monde devient ce grand prêtre qu'est Zacharie, ou même le monde entier, si vous voulez, devient le Saint des Saints, devient le lieu de la présence de Dieu, ou voilà. Oui. Et donc, si vous voulez, voilà, quelque part, il y a cette ouverture qui est donnée, et il n'y a plus le dedans et le dehors, il n'y a plus la classe de prêtre ou de... On appartient tous à la descendance d'Aaron, d'Abraham, de David, d'Ésaïe. Et donc, le culte qu'on voit là, si vous voulez, au temple, ben c'est l'ancêtre de notre culte. Hein. On est complètement héritier, en fait, à travers le culte, la synagogue. On est héritier du culte dans le temple, avec à chaque fois, j'allais dire, une démocratisation, j'allais dire, du temple, hein, dans un sens. Puisque, bon, quand il y avait le culte au temple, c'était le sacré de chez sacré, puis ensuite il y a le culte à la synagogue qui avait été un peu initié après l'exil à Babylone. Donc autour de la Torah, autour de l'écriture, il y a une démocratisation déjà, parce qu'à ce moment-là, le Saint des Saints, dans un sens, c'est la lecture, c'est la Torah, la Bible, et puis sa lecture, son interprétation. Avec cette démocratisation, ben on va encore plus loin, je pense, dans la foi chrétienne, de cette ouverture, voilà. Donc la multitude du peuple était en prière au dehors. Ben maintenant, il n'y a plus ce dehors, et on est tous donc avec Zacharie. Alors bon, ça commence comme ça, avec une sorte de relativisation, un petit peu, je pense. Mais en même temps, ce n'est pas que la relativisation, on pourrait dire que la première alliance... On pourrait dire que le culte est relativisé, mais ça n'empêche que c'est quand même Zacharie, prêtre dans le Saint des Saints, qui va avoir la visite de Dieu. Donc c'est pas tant relativisé que ça aussi, si vous voulez. C'est peut-être un peu remis à sa place pour aller plus loin, voyez. Et ça, je crois que c'est aussi ce qu'on a à apprendre en tant que chrétien. Le culte n'est pas l'essentiel. Le culte, c'est une préparation. L'acte religieux, c'est une préparation. L'essentiel, il est au-delà. La visée de même de l'acte religieux, même de la lecture de la Bible, même à la limite de la prière, même le culte, bien sûr, les sacrements, tout ce qu'on veut, c'est de l'ordre de ce service stérile que fait Zacharie, stérile certes, mais qui sert un peu de marchepied, de préparation à quelque chose de plus grand qu'est une rencontre avec Dieu. Donc ça relativise, ça remet plutôt en place comme un marchepied, comme une préparation, comme un propédeutique, hein, voilà, comme un outil. Alors qui ça prépare? C'est pas Dieu que ça prépare, c'est nous qui nous préparons, qui faisons peut-être place à cette vocation dans l'exercice religieux, si vous voulez. Donc, est-ce que c'est une nécessité absolue? Pas forcément, puisqu'on va le voir que ni Marie, ni les bergers, puisqu'il y en a d'autres, hein, des vocations dans ce bouquet de vocations, ben, eux, ils n'étaient pas dans le Saint des Saints, dans le Temple. Hein. C'était une femme, peut-être même une gamine. Les bergers étaient dans les champs, les bergers au contraire, ils étaient mal vus parce qu'ils ne peuvent pas bien faire tous les actes religieux, tous les rites, se laver bien les mains comme il faut, bien obéir au sabbat, parce que ben, si les brebis ont soif, ben, il faut quand même aller marcher, même si ce n'est pas la quantité de le trajet maximum imposé, ben, voilà, on va le faire quand même, parce que sinon les brebis vont en crever de soif. Donc si vous voulez, c'est l'avantage de ce bouquet, si vous voulez, de vocation qui est donné dans ce début de l'Évangile selon Luc, c'est que ça ouvre différents types de rencontres avec Dieu. Ça peut être par la religion, la preuve, hein, par une bonne observation de la religion, tout bien, mais on nous rappelle que c'est pas la religion en elle-même, n'a pas de fécondité. Ça peut servir au mieux de préparation. Sans que ce soit non plus obligatoire, puisque les bergers, par exemple, sont l'inverse. Hein. Alors le paragraphe d'après, qui est-ce qui peut nous lire à partir du verset 11? Sinon on prend le même lecteur, hein, puisque c'est bien chaud. Hein.
Alors je continue. Hein. Oui. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut troublé, et la crainte s'abattit sur lui. Mais l'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera par devant sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, et conduire les rebelles à penser comme les justes, afin de former pour le Seigneur un peuple préparé.
Voilà. Bon, on peut s'arrêter déjà sur ce petit paragraphe. Donc on va voir sa vocation, finalement. Donc c'est assez classique, hein, ce schéma. Il est appelé par son nom. Donc là, c'est une vraie vocation personnelle. Vous voyez, il ne s'appelle pas, on ne dit pas, vous voyez, on n'appelle pas toute la caste de prêtres ou je ne sais pas quoi, il est appelé par son nom, ça c'est quelque chose qu'on rappelle lors de notre baptême, ça reprend ce concept. C'est vraiment donc une vocation personnelle. Zacharie, le mot même Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient, donc c'est un terme de l'alliance, parce que ce souvenir, ben, c'est le terme technique qui veut dire l'obéissance à l'alliance, à sa partie de l'alliance, hein. Donc le IE de Zacharie, c'est Yahvé, c'est Yah, hein, le nom de Dieu, qu'on traduit des fois par l'éternel ou quelque chose comme ça, puis Zachar, c'est ce souvenir. Donc souvent c'est comme ça, on est appelé par son nom. Il y a l'ange du Seigneur. Donc un ange, c'est vrai que le mot, je le dis souvent, le mot ange c'est trompeur, parce qu'on dirait que c'est un terme technique pour parler d'une bête à plumes, je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est simplement messager, si vous voulez. Hein? D'autant plus qu'il s'appelle Gabriel, Gabriel. Donc elle, c'est Dieu. Hein? Et puis Gabre, Gibor, c'est en fait le héros, l'homme fort, donc l'homme fort de Dieu. Donc un messager, il y en a des messagers de toutes sortes. Hein. En général, je dirais, c'est l'équivalent, c'est une expérience spirituelle. Ça peut être une expérience spirituelle dans la prière, dans la lecture, dans la contemplation de la nature. Ça peut être sous sa douche, ça peut être parce que quelqu'un nous dit un mot, qu'on assiste à quelque chose, qu'on a directement cette présence de Dieu, qu'importe. C'est général, c'est un terme générique, ange du Seigneur, c'est générique pour parler de l'expérience mystique, l'expérience spirituelle. Sauf que Seigneur, ici, ça traduit la même chose que le IE de Zacharie, ça traduit plutôt Dieu en tant que l'Éternel, que Yahvé, c'est-à-dire un Dieu de tendresse, de bonté, d'accompagnement, source de supplément de vie. C'est pas un Dieu dur, tout puissant, méchant, etc. Hein, y a cette connotation derrière. Donc l'ange du Seigneur, voilà, si on voit vraiment un ange avec ses plumes, tout ça qui vient, on se dirait, mais il n'y a pas de doute, si Dieu est vraiment présent comme ça. Mais en fait, quand c'est une expérience spirituelle, on peut arriver de se dire, oui, mais alors bon, est-ce que c'est par hasard pas moi qui me fais une imagination, qu'interprète de travers donc c'est pour ça que, voilà, si vous voulez, ça paraît contrasté avec Zacharie qui dit, bah, quoi le saurais-je, j'en sais rien. C'est que l'ange, c'est pas si évident que ça, vous voyez. Ensuite, le trouble et la crainte, l'ange qui dit « sois sans crainte », c'est très fréquent, c'est donc une citation, en fait, hein, pour dire il y a ce trouble et ce « sois sans crainte », on le retrouve toujours dans la théophanie. Cette théophanie, c'est Dieu qui se manifeste à quelqu'un. On pourrait le traduire en nous, c'est un peu une crise d'adolescence qu'on peut vivre à travers une expérience spirituelle, à travers toutes les étapes peut-être de notre foi, de notre compréhension. Il y a un moment, on a l'impression de perdre un peu pied dans un sens, parce qu'on évolue. Quand on évolue, il y a toujours un peu cette insécurité qu'on peut sentir. Alors cette insécurité, elle est relativement de courte durée, à mon avis, dans notre itinéraire de foi aussi. On arrive à reprendre pied dans une autre façon d'être et d'être dans la foi. On le voit, par exemple, les gens qui quittent une église où on présente le dogme comme étant sacré, absolu, la vérité du bon Dieu, puis qui arrivent dans une église où on leur donne l'autorisation de penser par eux-mêmes. Il y a un moment de vertige en se disant « mais il n'y a plus rien n'est sûr ». Et puis finalement, assez vite, on place sa confiance autrement, plus en Dieu lui-même et dans son amour que dans le dogme, le rite, etc. Donc là, c'est pareil, il y a quelque chose en lui qui se trouble, évidemment. Alors, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Donc finalement, on découvre qu'il n'y avait pas seulement le bon petit soldat qui fait tout bien tout ce qui est marqué dans le truc, il y avait une prière personnelle en fait. Et c'est cette prière personnelle peut-être, cette petite espérance supplémentaire en Dieu de quelque chose de magique, de quelque chose qui est de l'ordre d'une fécondité, pas seulement à lui, mais à son couple, leur existence à tous les deux, s'il y a là quelque chose qui laisse place pour que Dieu puisse se rendre présent et exaucer cette sorte de soif, cette sorte de prière. Alors peut-être que ça, c'est quelque chose qui nous est dit là, mais sans que ce soit un absolu non plus, parce que Marie, elle, n'avait rien demandé à personne, elle sûrement pas d'avoir un enfant, et encore moins hors mariage, parce que c'est quand même un peu embarrassant, si vous voulez. Même aujourd'hui, quand une fille de 16 ans doit annoncer à ses parents qu'elle est enceinte, elle n'est pas forcément le discours le plus facile à avoir. Enfin, je ne sais pas, je m'imagine si je suis père, ce n'est pas forcément très facile. Mais encore moins si je suis le fiancé et que j'y suis pour rien. Bon, donc, si vous voulez, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il dresse des possibilités. Notre prière, notre attente, notre soif est quelque chose qui peut faire, qui peut être un facilitant, si vous voulez, dans l'action de Dieu en nous pour que notre vocation puisse faire son chemin. Alors son boulot à faire, parce que vocation souvent c'est une qualification pour faire un job, une mission, sa mission c'est lui donner le nom de Jean. C'est pas un boulot extrêmement dur. C'est pas harassant comme fatigue, mais c'est important. C'est-à-dire que là, il y a un changement quand même de théologie. Zacharie, l'Éternel se souvient, c'est un Dieu de l'Alliance, qui tient sa partie, qui est fidèle à son alliance, fidèle à ses engagements. Bon, c'est déjà bien bon à noter, Dieu est fidèle. Il ne nous laissera pas tomber. Mais c'est pas mal. Mais Jean, c'est un autre programme, le J de Jean, c'est pareil, c'est comme le IE de Zacharie, c'est l'Éternel. Hein. Et puis le An, c'est un peu court en français, mais c'est un peu comme Johann, c'est la grâce de Dieu, en fait, Reine, ou le N de Jean, c'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans l'Alliance, parce que l'Alliance... Vous voyez, il y a deux parties dans l'Alliance. Alors on peut se dire, si nous, on n'est pas un hyper bon petit soldat, ben peut-être que, comme Zacharie et Élisabeth, ben peut-être que l'Alliance, elle est fichue. Ben Yohanan, Jean, il dit, ben non, que Dieu est au-delà de son Alliance, puisqu'il est dans la grâce, c'est le promesse qu'il tient même unilatéralement sa partie de nous bénir, de nous accompagner. Donc c'est déjà vous voyez, il y a déjà un glissement de sens, qui n'est pas si évident, et on va le voir à la fin, hein, la foule, on n'aura pas le temps de lire jusqu'au bout, mais vous le lirez en devoir de vacances, mais on le voit au verset 59 et 60, dans la dernière page de votre petite feuillet, les gens insistent beaucoup, non, il faut l'appeler Zacharie, et lui, non, il s'appellera Jean, en fait. Oui, parce que la logique, c'est d'être dans une logique de l'Alliance, et ben non, il dit, on s'ouvre maintenant à une logique de la grâce. Et c'est déjà une prolongation de cette théologie, un changement de cette théologie dans une autre façon de la voir. Et puis ensuite, eh bien, tu auras de la joie, de l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Donc il y a, voyez, une joie communicative, une joie qui fait tache d'huile. Et puis c'est pareil... simplement le fait de l'appeler Jean, eh bien ensuite il va devenir quelqu'un qui va vraiment avoir un rayonnement de Jean-Baptiste. Donc vous voyez, ce minuscule petit effort de Zacharie d'appeler son fils un peu comme il faut, c'est un peu comme un programme, c'est un peu comme une flèche lancée qui va ensuite se déployer en Jean-Baptiste. Et puis Jean-Baptiste, il n'est encore que celui qui prépare les chemins. Et Et donc il prépare encore plus grand en Jésus, qui est donc le Messie, le Christ. Donc vous voyez, c'est un minuscule petit commencement qui va se déployer d'une manière immense. Alors c'est peut-être comme ça aussi notre vocation, bah oui, notre vocation, elle fait tache d'huile, on peut faire tache d'huile avec nos proches, comme ici ça fait tache d'huile avec, ça se répand donc avec sa femme Élisabeth, et puis d'Élisabeth ça va se répandre un peu à Marie, et puis ça va se répandre sur Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui prépare Jésus, et puis finalement une allégresse, une joie d'un grand nombre autour de ce minuscule petit commencement, finalement. Donc ça nous parle de cette vocation, peut-être de, je pense aussi, de notre vocation personnelle. Mais finalement, c'est la dernière phrase de l'Ancien Testament, en fait. C'est la dernière phrase du livre de Zacharie, hein, de Malachie, je pense. Hein. Zacharie, Malachie, dernière phrase de Malachie. Donc avant que l'évangile selon Matthieu s'ouvre. Hein. Malachie 3, hein, c'est fin de l'Ancien Testament, hein, les dernières phrases. Voici, moi-même je vous enverrai. Donc ça, c'est l'Éternel qui parle, je vous enverrai le prophète Élie, donc vous voyez, c'est ce qui est un peu cité ici, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, donc d'extermination, de choses comme ça. Ça se termine comme ça, l'Ancien Testament. Hein. Donc ici, on pourrait voir, c'est pour ça qu'ils ont mis en italique dans le texte, c'est que c'est une citation, en fait. Hein. Ça j'ai mis là, je crois que c'est la nouvelle seconde que j'ai mis, hein, le texte de la nouvelle seconde, NBS, nouvelle Bible seconde. Et donc c'est bizarre, ramener les cœurs des pères vers leurs enfants, c'est vrai que ce serait normalement plutôt l'inverse, mais on pense peut-être que c'est ramener vraiment Abraham au cœur de notre être, finalement la foi d'Abraham peut-être, hein, la foi de Moïse, la foi des pères, hein, les ramener présents dans notre vie, dans notre existence, dans notre peuple, c'est un peu l'espérance donc de Zacharie, de Malachie. Je pense que c'est ça qui est proposé ici, hein, de conduire les rebelles à penser comme les justes afin de former pour le Seigneur un peuple préparé. Alors préparer les chemins du Seigneur, c'est... donc ça c'est aussi Malachie, mais c'est plutôt le début du chapitre 3, hein, qui annonce de préparer un chemin pour le Seigneur. On pense que l'idée, si vous voulez, c'est que Jean-Baptiste il fait cette préparation pour le Christ qui accomplit cette attente, cette espérance. Hein. Oui. Il y a 6 mois, en fait. Dans le texte, là, il y a 6 mois. Hein. C'est ce qu'on voit au verset 26, en fait, vous voyez. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu vers Marie, et c'est 6 mois, en fait, donc, la visite de l'ange à Zacharie. On dit, voilà, 6 mois d'âge. De faire la part entre ce qui est historique de chez historique, vous voyez, et puis de ce qui est une mise en récit de vérité spirituelle, théologique, existentielle. C'est-à-dire c'est à la fois un récit de choses qui sont arrivées, il y a eu un monsieur Jean-Baptiste, il y a eu un monsieur Jésus, il avait une mère qui s'appelait Marie, voilà, ça à mon avis, il n'y a pas aucun doute historiquement. Ensuite, dans les détails comme ça, il raconte le récit, mais il le prépare pour que, pour que ça soit une prédication pour nous et qu'on vive du salut qui est manifesté en Jean-Baptiste, en Jésus, et le salut que Dieu veut pour notre vie personnelle. Donc c'est un mix, si vous voulez, sur la base de faits historiques, il le transforme en prédication pour qu'on puisse se nourrir de ces récits comme d'un appel à ce qu'on les vive nous-mêmes, dans notre intérieur. Alors on marque 6 mois. Est-ce que c'est 6 mois, 180 jours? J'y mettrai pas ma main à couper. Et peu importe. Peu importe, parce que si vous voulez, c'est pas une importance.
C'est vraisemblable, de toute façon.
Alors ça peut être vraisemblable, qu'il y ait l'un avant l'autre, ça à mon avis c'est sûr, puisqu'il reste même aujourd'hui des disciples de Jean-Baptiste, les Mandéens. Ils pratiquent un baptême, ils parlent l'araméen, et puis ils disent que Jésus est un gros nul, en gros, quoi, vous voyez. Donc ils restent disciples de Jean-Baptiste qui ne se sont pas convertis à Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, historiquement, à mon avis, ça fait sens. Ensuite, les 6 mois, c'est possible, c'est pas une certitude, mais que le chiffre 6, c'est un chiffre rond bien connu qui évoque la création matérielle en 6 jours. Et le 7e jour... C'est le don de la bénédiction qui est un peu le ça met le, j'allais dire, en incandescence les 6 premiers jours purement matériels. Donc je voyais Jésus, il arrive dans le 7e mois, et donc ça dit déjà que Jésus, il est du côté de la bénédiction, si vous voulez. Jésus est de l'ordre de l'Adam véritable qui naît d'une création matérielle, avec en plus ce côté magique d'une bénédiction qui est donnée à l'humain. Ça veut dire ça un peu, si vous voulez. Puis ensuite, on nous présente Jean-Baptiste vivant parmi les bêtes sauvages, habillé de peau de bête et ne se nourrissant que de sauterelles. Alors, ça aussi, c'est vraisemblable. Jean-Baptiste était, on nous le dit un peu là, et boire ni vin ni boisson fermentée. Il avait une vie plutôt ascétique, peut-être un peu comme les Esséniens, mais en même temps, à travers cette image qu'on nous donne de lui, il représente un peu l'homme sauvage que nous sommes. Et puis à travers la venue du Christ en nous, c'est-à-dire vraiment d'une relation personnelle avec Dieu, peut-être comme Marie, en disant le oui qu'il me soit fait selon la parole de Dieu, ben en nous, il y a quelque chose qui s'allume, non plus de l'homme sauvage, mais de l'enfant de Dieu, voilà. Donc si vous voulez, le 6 de 6 mois, en même temps c'est historique, Jean-Baptiste était précurseur de M. Jésus, oui, M. Jean, le vrai Jean-Claude. Jésus est deuxième, à mon avis, historiquement, il y avait cette préparation, il est plus ou moins disciple de son cousin, et puis il mène plus loin, voilà. Mais en même temps, en mettant le 6 mois, en mettant ce chiffre 6 sur cette différence d'âge, il le transforme en un projet pour notre itinéraire. On passe du Jean-Baptiste, l'homme sauvage, qu'on passe au Jésus, qu'on passe à quelque chose de christique, l'homme vivant de la bénédiction de Dieu, vibrant, j'allais dire, d'une parole qui nous anime. Oui, allez-y, oui.
Elle est en présence de Marie, comme s'il y avait eu une sorte de reconnaissance justement de Jésus à l'intérieur du ventre de sa mère,
voilà.
Par Jean-Baptiste, même en rayon, enfin en rayon.
Oui. Alors là aussi, si vous voulez, est-ce que historiquement ça s'est passé comme ça, ou est-ce que c'est une parabole pour nous? C'est possible que ça soit aussi quelque chose qui nous soit dit, parce que si vous voulez... à l'intérieur de nos entrailles, le mot entrailles, d'ailleurs on le connaît parce que si vous voulez, dans le Je vous salue Marie, qui est cher donc à la piété catholique, et qu'on retrouve ici, c'est le récit de la visitation qu'on a là. Voilà, c'est au verset 42. Tu es bénie de toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Donc le fruit de tes entrailles est béni dans la piété catholique. le mot sein ou le mot entrailles, hein, c'est, en hébreu c'est rechem, et c'est le même mot que, hein, que chacham, l'amour en fait. C'est l'amour, l'amour viscéral en fait. C'est l'amour, c'est le mot utérus en fait. Les entrailles, c'est l'utérus. Hein. Et chacham, c'est l'amour.
Oui, c'est le ventre aussi, c'est un peu le siège des émotions aussi quand même.
Alors c'est le siège des émotions parce que voilà, on est pris aux tripes, hein, voilà, on dit, voilà, on est pris aux tripes, ça reste ça. Mais c'est même plus que les tripes, c'est plus que les boyaux, mm-hmm. c'est l'utérus aussi, mm-hmm. vous voyez. Et donc c'est à la fois un amour, j'allais dire, viscéral de la maman tigre pour son petit tigre, hein, mais c'est aussi l'amour qui est matriciel au sens où il donne la vie, si vous voulez. Et donc, c'est le fruit des entrailles, on pourrait dire, hein, c'est ce qui en nous vibre d'une vraie générosité, d'un vrai amour. C'est notre bon fond, je pourrais dire. Et donc, c'est ça qui en nous peut commencer à tressaillir et arriver à saluer ce qui est christique chez l'autre, dans le monde et en nous. Donc, vous voyez, ces récits, il faut les lire comme étant historiques, peut-être. On peut en discuter à chaque fois, et on n'est pas forcé de ne pas avoir de doute là-dessus, et de dire, bah, peut-être ça s'est passé pas comme ça, peut-être ça s'est pas passé comme ça. C'est pas si grave. En gros, il y a un fond historique, d'accord. Mais il faut le lire comme une prédication qui nous est donnée pour qu'on puisse vraiment en vivre et que ça s'incarne dans notre existence. Il faut se dire, bon, qu'est-ce qui en moi est déjà de l'ordre de Jean-Baptiste, du précurseur, même si c'est tout petit, même si c'est pas visible, même si c'est caché au plus profond de mon être, donc pas encore tellement actif, pas tellement encore sorti de l'œuf. Un petit quelque chose de minuscule, d'embryon de quelque chose de minuscule qui est déjà tressaille dans mon meilleur fond, dans mon amour, etc., et qui salue quelque chose d'immense qui le dépasse dans le monde, dans l'autre, en face, dans... voilà. Ces récits, ils sont à habiter, si vous voulez. Ils sont donnés pour qu'on les vive.
Et puis qu'on se mette aussi dans chaque personnage.
Qu'on se mette dans chaque personnage, absolument. Donc on est à la fois Jean-Baptiste, oui, minuscule dans le monde, ayant un petit mot qui témoigne de la grâce de Dieu. On est en même temps, ne serait-ce que l'embryon de Jean-Baptiste quelque part dans le monde. On est aussi Élisabeth, qui sent cela, et qui déjà... Hein, on est Marie, on est Jésus, on est tous les personnages de l'histoire. Voilà. On peut prendre une leçon. Et puis quand c'est un personnage un peu limite, et ben c'est aussi nos limites. Voilà, c'est le récit, le texte biblique est fait pour... être lu comme ça, si vous voulez. C'est pas un reportage. C'est une prédication. C'est une prédication. Donc là, on voit ensuite Zacharie donc, qui hésite, qui dit, mais... Zacharie dit, mais à quoi saurais-je, car je suis un vieillard, ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, ben, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu vas être réduit au silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps.
J'ai une question là.
Oui, oui.
Justement, plus haut, il est dit, ta prière a été exaucée, oui. Zacharie. Alors, on se demande quelle est sa prière parce que quand
il y croit plus,
doute,
oui.
Là,
ben oui. Ben on est tous comme ça, en fait. C'est là que c'est rigolo, si vous voulez. C'est là que c'est parfaitement... c'est là que c'est l'histoire. Est-ce que c'est vrai historiquement? C'est vrai dans notre histoire, à nous, en tout cas. On est bien comme ça, avec ces ambiguïtés, si vous voulez. Hein. En même temps, sa prière, ben, il priait peut-être quand ils avaient tous les deux 20 et 30...
Il voulait avoir un fils, voilà.
20 et 25 ans, ils espéraient que ça vienne. Et puis,
oui,
70
c'est
ans
ça.
Après...
C'est ça, oui. Je pense que c'est
ils
ça.
Y croient moins, quoi.
Comme quoi la prière, ça n'arrive pas tout de suite, l'exaucement.
Ça n'arrive pas tout de suite ou ça n'arrive pas comme on l'entend, hein, des fois, oui, c'est ça. C'est ça, voilà, voilà. Souvent, il y a cette prière éternelle, protège-moi de mes prières exaucées. Finalement, si on demande n'importe quoi, le n'importe quoi arrive, et puis après, il n'y a plus qu'à rattraper, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais donc là, je crois qu'effectivement, ce refus, finalement, de la vocation, ce doute, ça provoque des troubles. C'est pas une punition de Dieu, c'est qu'effectivement, en nous, il y a des handicaps. Alors ça se voit fréquemment, ça, si vous voulez. Ça se voit, par exemple, Jacob, hein, qui sort boiteux, Paul avec ses écailles sur les yeux. On peut le voir, c'est assez fréquent. Hein. Ça, à mon avis, il ne faut pas y voir une punition de Dieu, parce que Dieu n'est pas comme ça. Il ne peut même pas faire d'apporter de la souffrance, du handicap et de la mort. Mais c'est nos limitations, mais finalement, malgré nos limitations qui induisent un certain trouble, Dieu est un peu comme un chat, voilà, comme on l'envoie un peu à l'envers, il se retombe sur ses pattes. C'est ce que vous avez vu, je pense, la dernière fois avec Regina sur Jonas. Hein. Oui, quand on refuse la vocation, ça crée de la mort, ça crée de la souffrance, ça crée du trouble. Mais finalement, le chemin de cette bénédiction est assez puissant, peut-être, pour faire son chemin. Voilà. Alors ensuite, c'est vrai que ça fait tache d'huile avec sa femme, mais on peut aller voir ensuite directement peut-être au verset 26 avec Gabriel peut-être. Oui.
Une question, pourquoi 5 mois durant elle s'en cacha, alors que justement elle disait que c'était sa honte devant les hommes.
Que c'est la fin de sa honte, qu'elle est fière finalement maintenant d'avoir un enfant, c'est parce que peut-être que elle trouvait que c'était un peu ridicule, peut-être comme Sarah, la femme d'Abraham, d'être enceinte à 80 ans, si vous voulez. Elle trouvait que ça faisait un peu ridicule, je ne vois pas pourquoi, mais peut-être que ça peut être un petit peu de la modestie. Mais ça, je pense que volontiers, je dirais ça. Par exemple, il y a des gens qui vivent quelque chose de l'ordre d'une guérison, si vous voulez, miraculeuse, qui disent, voilà, vraiment, ma santé, le franchissement de mes moments difficiles, c'est vraiment dû en moi à quelque chose qui vient de Dieu et qui est de l'ordre du miracle et de la guérison. On peut le dire soi-même pour soi-même, le dire dans l'intimité et en rendre gloire et louange à Dieu et vivre dans la reconnaissance. Ensuite, si on dit aux gens alentour, on dit Dieu est pour moi a été guérison, source de miracle, il m'a fait marcher sur l'eau. Quelque part, à ceux qui sont encore dans la souffrance, ça vient dire. Ça vient être injurieux pour eux, parce que ça pourrait être compris comme disant si Dieu peut me guérir par exemple de mon cancer, celui qui meurt pas de son cancer, il se passe quoi? C'est qu'il a pas assez la foi, qu'il s'ouvre pas à la force de bénédiction de Dieu, qu'il est moins aimé par Dieu pour que Dieu donne pas la guérison. C'est quand même vachement arrogant, si vous voulez. Je crois pas que Dieu soit comme ça, si vous voulez, qu'il vienne apporter des enfants à l'une et pas à l'autre. Dieu, il est pour que tous les projets, les bons projets de chacun se réalisent, que tout le monde soit en bonne santé. Puis en fait, des fois, le plan de Dieu se réalise pas, parce que Dieu est pas un magicien qui tire les ficelles, si vous voulez, comme ça. D'ailleurs, dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, c'est bien qu'elle n'est pas faite. Donc non, Dieu n'est pas un magicien, et quelquefois la volonté de Dieu, elle bute contre la maladie, contre la faiblesse, contre tout un tas de négativité. Dieu n'est pas une sorte de magicien tout puissant. Donc quelque part, si on dit Dieu m'a donné un enfant, pour ceux qui n'en ont pas et qui pleurent de ne pas en avoir, ça peut être une injure en fait, en pleine gueule. Ça peut être très cruel en fait. Peut-être pour ça, moi je verrai ça, mais ensuite c'est à chacun, vous voyez, ces textes, il n'y a pas, s'il y avait une leçon à tirer, claire, nette et sans bavure, ils auraient mis. Et comme Élisabeth, chacun est prié de ne pas faire le fanfaron quand il y a quelque chose qui va bien dans sa vie, quoi. Mais s'il ne tire pas la leçon, c'est que c'est à nous de méditer ça et de dire, comment moi dans ma vie, avec ce qui m'arrive, ça m'apporte quelque chose. On peut y lire une fois, peut-être une timidité maladroite de se dire, au lieu de rendre grâce et de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, et que ça puisse donner envie à d'autres de vraiment vivre de cela, Élisabeth est passée à côté. Elle n'a pas répondu à sa vocation d'être source d'une louange qui fasse tache d'huile, d'une joie qui fasse tache d'huile. Alors peut-être que c'est une erreur. Une autre fois, peut-être qu'elle a bien fait, parce que ça pourrait être source d'achoppement. Donc, vous voyez, il n'y a pas une leçon à tirer simplement de ça. C'est une question qui nous est posée, comme vous la posez. Et c'est cette question, à mon avis, qu'on peut entendre. Et pour savoir, bon, dans ma circonstance donnée, face à ce qui arrive dans mon existence, quel sera peut-être l'effet de ma parole ou de mon silence, et de chercher qu'est-ce qui correspond le mieux à ce qui semble être ma vocation personnelle, dans ma circonstance donnée, en fait. C'est ça aussi la force du texte biblique, c'est que personne ne peut le lire à la place des autres. C'est des pistes qui sont données.
Ce sont des humains tous aussi.
C'est des humains.
Comme tout le monde.
Voilà. Donc c'est à nous de décider si à un moment donné, c'est une carence et une limite de ne pas avoir témoigné de ce que Dieu avait fait dans sa vie, ou si au contraire c'était une saine humilité et pour pas peser sur les autres. Ouais, c'est la question. Alors est-ce que vous avez, sinon on passe pas au texte suivant, si on a encore des discussions là-dessus, hein, il y en a beaucoup, hein, de questions là-dessus.
Dans cette première partie, il y a, oui, en plein milieu, en disant Jean-Baptiste, bien sûr, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.
Oui.
Et on va retrouver que dès le sein de sa mère, etc. Donc déjà l'Esprit Saint.
Oui.
Bah
ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors l'Esprit Saint, la parole, l'ange du Seigneur, tout ça c'est un peu la même chose en fait. Tout ça c'est un peu la même chose. C'est ce quelque chose qui vient de Dieu et qui apporte un supplément d'être, un supplément de parole, voilà. Voilà, voilà. Alors, ce qui peut-être pour terminer, parce qu'on n'a pas le temps de voir façon, tout ça, c'était plutôt un peu un panorama, un avant-goût, hein, toujours ces moments, c'est que si vous voulez, la vocation, c'est de l'ordre d'une parole, donc, hein, qui nous est adressée. Alors cette parole, elle peut être Esprit Saint, c'est, je rebondis un peu sur votre remarque. L'Esprit Saint, j'allais dire, c'est la parole créatrice de Dieu, hein, c'est ce qu'on voit dans le début de la Genèse. Alors, en fait, en hébreu, il y a deux mots différents pour dire la parole. Il y a amar et dabar. Le amar, c'est la parole créatrice de Dieu. C'est quelque chose quand même d'assez puissant, quoi, si vous voulez. Quand Dieu parle, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, en fait. Donc, c'est une parole qui est puissante. Hein. C'est plus, peut-être, la parole du Dieu qu'on appelle elle, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu créateur. Mais ici, rien n'est impossible à Dieu, au verset 37. Et puis Marie qui répond, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse par moi, comme tu l'as dit, au verset 28. » Le rien, en fait, ce n'est pas très bien traduit. Ça veut dire, c'est dans le texte, il y a marqué, « Toute parole de Dieu est possible, en fait. » Avec Dieu, toute parole est possible. Littéralement, c'est ce qui est marqué. Et puis là, qu'il me soit fait comme ta parole, finalement. Ben ça, c'est Réma, c'est pas Logos. Et Réma, ça traduit en général d'abar plutôt que amar en hébreu. Et donc, c'est plutôt la parole qui donne du sens. C'est plutôt la parole qui donne une vocation, qui donne une orientation, qui dise la valeur des choses, des êtres, qui dit un projet. Plus que de cette parole de création, que la lumière soit et la lumière fut, voyez. Donc ça veut dire en même temps, si je dis ça, c'est pour dire vraiment cette ouverture de cette vocation. On a le droit de dire non, et c'est de une vocation qui est de l'ordre du sens, qui est de l'ordre de l'appel, qui est de l'ordre, voyez, c'est pas... C'est l'Esprit Saint, mais en même temps, C'est un Esprit Saint auquel on peut dire non, si vous voulez, auquel on peut résister. Parce que la parole, comme ça, on a le droit, ça peut se négocier, on a le droit de l'entendre, pas l'entendre, être d'accord en partie, de l'infléchir dans une discussion, dans un dialogue. Mais c'est bien ce que font finalement aussi bien Zacharie que Marie finalement. Ils discutent. Hein. Ils disent mais comment ça peut se faire, mes machins, mes trucs. Hein. Et puis finalement, ben voilà, ça. On entre dans une. C'est un travail de persuasion aussi. C'est un travail, voilà, c'est pas malgré la personne, c'est avec. Hein. D'ailleurs, c'est bien ce que dit aussi, tu es béni. Hein. La bénédiction, c'est une articulation entre les deux, entre le Dieu et la personne. C'est pas simplement Dieu qui est le patron et puis l'homme qui est soumis. C'est vraiment un travail en équipe. Mais d'ailleurs, bien heureuse celle qui a cru. C'est pas croire de la croyance, j'en suis persuadé, j'accepte. C'est le croire de la pistis, donc de la confiance, de la relation, d'être en relation. Vous voyez, tout ça, ça dit un peu l'être en relation, pas simplement l'obéissance et la soumission. Moi, j'ai peut-être, on va peut-être s'arrêter là-dessus, parce qu'il est l'heure, hein, qu'on a déjà vu pas mal de choses. Est-ce que vous avez encore une petite remarque avant de vous libérer? Une petite. Sinon, la semaine prochaine, ceux qui le peuvent, se retrouvent avec. Continuer à discuter.